France Culture, il est midi 32. L'heure du journal d'Antoine Mercier, pardon pour ce retard, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Le président de la Généralité de Catalogne devant le Parlement régional ce soir vers 18h pour, sans doute, y proclamer l'indépendance à Madrid. Mariano Rajoy évoque le déclenchement de l'article 155 de la Constitution qui l'autoriserait à prendre le contrôle de la région. La Commission européenne, à l'instant, lance un appel au dialogue. On sera en ligne dans un instant avec Sébastien Berriot et Marie-Hélène Ballesteros à Madrid. Quelle mobilisation pour la journée d'action des fonctionnaires? Mobilisation en tout cas sensible dans les écoles et à l'hôpital. On fera le point avec Annabelle Grelier. Nouvelle alerte sur la sécurité des centrales nucléaires françaises. Rapport de Greenpeace qui met en garde contre des failles sécuritaires en cas notamment d'attaques terroristes. Précision de Véronique Robérotte. Deux détenus de Fresnes mis en examen soupçonnés d'avoir envisagé un projet d'attentat depuis leur cellule. Explication d'Antoine Narette et puis l'invité du journal, notre confrère Étienne Girard de Marianne, qui révèle que la ministre de la Défense, Florence Parly, a touché un salaire de plus de 50 000 euros par mois pour les 6 premiers mois de 2017 en tant que directrice générale déléguée de la SNCF. Dans la dernière partie de la Grande Table, Olivia Gesbert.
À l'occasion du centenaire de 1917, il publie une vaste biographie de Lénine. Notre invité, l'historien Stéphane Courtois, publie chez Perrin « Lénine, l'inventeur du totalitarisme ». On est entre l'histoire et la psychanalyse. On reparlera de ce personnage phare qui a fait basculer l'histoire de la Russie.
C'est le jour J pour l'indépendance de la Catalogne. Les partisans d'une séparation avec l'Espagne commencent à se masser sur les places des grandes villes parce qu'en fin d'après-midi, donc, ils assisteront en direct à la retransmission sur les écrans géants du discours du président de la Généralité, Carles Puigdemont, lequel devrait donc proclamer, selon toute vraisemblance, l'indépendance à la tribune de ce Parlement régional à Barcelone. Sébastien Berriot, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, il faut naturellement encore utiliser le conditionnel, mais selon la presse catalane ce matin, les jeux seraient faits. Carles Puigdemont ne pourrait pas reculer maintenant au point où il en est.
Oui, trois lettres sont ce midi dans tous les esprits en Catalogne. D-U-I, c'est comme ça ici que les Catalans et la presse appellent la déclaration unilatérale d'indépendance avec ses initiales. Y aura-t-il une proclamation ce soir? Le président Carles Puigdemont est resté extrêmement silencieux sur le contenu de son discours. Il a beaucoup consulté ces derniers jours, mais la presse catalane ce matin effectivement souligne que les indices sont quand même très clairs et que le président de la Generalitat, après avoir promis pendant des semaines et des mois à ses partisans une déclaration d'indépendance, ne peut plus reculer. Aujourd'hui, il n'a plus vraiment le choix, au risque de décevoir des centaines de milliers de Catalans. Ce que devrait en revanche faire Carles Puigdemont, c'est jouer sur les mots, une proclamation d'indépendance, oui, mais avec un délai avant la mise en application concrète. Les effets seraient suspendus pendant plusieurs mois, le temps de négocier avec Madrid. Plusieurs proches du président catalan ont indiqué que Carles Puigdemont pourrait appeler une nouvelle fois ce soir à une médiation pour accompagner la mise en route de l'indépendance. Une manière de rassurer tous ceux qui en Catalogne sont très inquiets en ce moment de l'évolution de la situation, à l'image de la maire de Barcelone, Ada Colau, qui a appelé hier à éviter toute proclamation unilatérale.
Et en tout cas, la population est mobilisée, je le disais tout à l'heure, chacun pressent bien que si la concrétisation de l'indépendance n'est pas forcément pour tout de suite, eh bien c'est une page, une logique de séparation en tout cas qui se met en place et c'est sensible dans les rues en ce moment en Catalogne.
Ouais, effectivement, pour de très nombreux Catalans, ce 10 octobre sera une journée historique, le début concret peut-être d'une séparation de avec l'Espagne. Des manifestations sont prévues dans de très nombreuses villes, à commencer par Barcelone, à l'appel de la puissante association indépendantiste ANC. Le rendez-vous a été fixé tout à l'heure sur le Passeig de Luis Companys, non loin du Parlement régional. À Gérone aussi, par exemple, la ville du président Puigdemont, fief indépendantiste, un écran géant sera installé devant la mairie et tous les habitants sont appelés à venir sur place à 18h pour suivre le discours en direct. Les anti-indépendances, eux aussi, seront devant leurs petits écrans à la maison avec un gros sentiment d'inquiétude. La Vanguardia, le grand journal de Barcelone, défavorable à l'indépendance, appelle ce matin Carles Puigdemont à ne pas faire basculer la Catalogne dans un précipice.
Sébastien Berriot, merci beaucoup. Attente fébrile aussi, on l'imagine, à Madrid, mais dans une toute autre ambiance. Marie-Hélène Ballesteros, bonjour.
Bonjour.
Quelles sont, pour M. Rajoy notamment, les ripostes possibles en cas de déclaration de l'indépendance ?
Eh bien, pour l'instant, on ne sait pas concrètement quelles vont être les mesures adoptées par le gouvernement Rajoy. Aujourd'hui, à son arrivée à Bruxelles, à la réunion de l'ECOFIN, le ministre espagnol de l'économie, Luis de Guindos, a tenu à rassurer ses homologues européens. Le gouvernement a tout analysé, tout préparé et il répondra en conséquence, leur a-t-il affirmé. Hier, c'est le chef du gouvernement Rajoy qui s'est réuni avec la direction du Parti populaire et il a tenu aussi un langage calme mais très ferme. Il compte bien utiliser tous les instruments nécessaires de la Constitution espagnole et du code pénal pour empêcher l'indépendance de la Catalogne. Alors parmi les outils légaux, celui qui est mis en avant depuis des semaines, notamment par le Parti Ciudadanos, c'est le recours, comme vous le disiez tout à l'heure, à l'article 155 de la Constitution espagnole, un article qui n'a jamais été appliqué en Espagne et qui impliquerait la suspension de l'autonomie de la Catalogne. On ne sait pas encore si toutes les compétences de la région seraient suspendues ou seulement quelques-unes. D'après le journal catalan El Periódico, Rajoy et son équipe sont conscients du risque de conflit social que ces mesures pourraient entraîner. Ils sont donc en train de peser le pour et le contre. Au-delà de l'article 155, il y a aussi une menace qui pèse depuis longtemps sur le président catalan Puigdemont et qui a été avancée hier de façon assez polémique par le porte-parole du Parti populaire Pablo Casado. C'est le risque qu'il finisse en prison. En 1934, l'un de ses prédécesseurs, Luis Companys, avait déjà proclamé un état indépendant catalan qui n'avait duré qu'une dizaine d'heures. Luis Companys avait donc été arrêté en 1934 et c'est une menace qui pèse aussi sur Carles Puigdemont.
Marie-Hélène Ballesteros, merci beaucoup. En direct de Madrid, l'invité de la dernière partie de la Grande Table est historien. Stéphane Courtois, bonjour.
Bonjour.
Vous parlez donc de livre sur Lénine. Il se trouve que vous revenez d'Espagne.
Oui.
Vous êtes historien. Est-ce que c'est un événement historique ? On a l'impression qu'on a affaire à quelque chose même de tout à fait déterminant.
C'est un événement historique et on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Je ne sais pas du tout s'il va y avoir une proclamation d'indépendance. Peut-être qu'il va y avoir un recul, je n'en sais rien. Mais en tout cas, si l'indépendance est proclamée, ce sera un événement historique pour l'Espagne et avec des conséquences, à mon avis, très graves, parce que la guerre civile est en train de renaître, tout simplement.
La guerre civile espagnole, vous pensez ?
La guerre civile espagnole,
on en est là,
bien
oui.
Entendu.
Oui.
Tous les Espagnols que j'ai vus depuis deux jours ne parlent que de ça.
Quel rapport y a-t-il ? Enfin, c'est simplement parce que c'est une autre forme de guerre civile ou est-ce que c'est la même guerre civile ?
Ça réveille énormément d'échos de la guerre civile dans toutes les familles. Alors, c'est tout le problème de la sortie de guerre civile en Espagne après la mort de Franco. Il est vrai qu'il n'y a pas eu de grand déballage. Mais il n'y a pas eu de grand déballage tout simplement parce que dans les familles, on refuse de parler de ça, parce qu'il y a eu des morts des deux côtés. Dans chaque famille, il y avait des morts des deux côtés et il y avait des assassins des deux côtés. J'en ai parlé longuement hier avec un journaliste très connu qui m'a dit « Mais dans ma famille, ma grand-mère est morte à 107 ans, mais on n'a jamais parlé de la guerre civile parce qu'on était tous impliqués. » Bon, et donc là, il y a toute une résurgence de ce... Vous imaginez, je ne sais pas, c'est comme si on avait une résurgence de la collaboration et de la résistance ici aujourd'hui. Bon, là, il y a vraiment un événement très important pour l'Espagne, mais ce sera un événement très important pour l'Europe. Je téléphonais hier à divers de mes enfants, l'une qui était à Bilbao, et qui me dit « Ah, mais à Bilbao, il y a des drapeaux catalans partout ». Bien sûr. Bon. Une autre qui est à Bruxelles qui me dit « Ah mais en Flandre, il y a des drapeaux catalans partout ». Donc il est évident, il n'y a pas besoin de faire un long discours, une longue théorie, il est évident que si la Catalogne proclame son indépendance, ça va donner des idées à d'autres. Que va faire le gouvernement ? Je pense par contre que le gouvernement va être extrêmement ferme. Donc on va vraiment à quelque chose qui peut être un conflit extrêmement grave.
Stéphane Courtois, merci beaucoup d'avoir accepté de donner aussi votre sentiment dans le journal. On vous retrouve tout à l'heure pour votre Lénine, l'inventeur du totalitarisme, publié chez Perrin.
En France, les quelques 5 400 000 fonctionnaires étaient appelés à la grève aujourd'hui, Antoine Mercier, par l'ensemble des fédérations syndicales de la fonction publique.
Dans les trois versants, donc, versant État, hospitalier et territorial, il y a plus de 130 manifestations, des rassemblements qui sont prévus dans 90 départements. À Paris, un cortège ira de la place de la République jusqu'à celle de la Nation. Annabelle Corlier, bonjour.
Bonjour Antoine.
Alors, on fait d'abord peut-être un point sur cette mobilisation en France à la mi-journée. Une grève qui se traduit un peu partout quand même par des fermetures, notamment des crèches, d'établissements scolaires, de classes et de nombreux services publics.
Oui, dans de nombreux services publics où le service minimum prévu par la loi n'est pas toujours assuré. Dans la plupart des écoles, l'accueil périscolaire et la restauration ne fonctionnent pas aujourd'hui. À Marseille, par exemple, les trois quarts des cantines et 80% des crèches sont fermées. Côté enseignants, un instituteur sur deux au moins est en grève. Des perturbations perturbations également dans les transports, mais surtout dans les transports aériens. 30% des vols ont été annulés préventivement en raison de la grève des agents de l'aviation civile. Peu de débrayages, en revanche, à la SNCF et la RATP. Les syndicats ont seulement incité les agents à se joindre au cortège en signe de solidarité. Mais c'est du côté de la santé que la mobilisation se révèle plus large. Une dizaine de syndicats de praticiens, hospitaliers, médecins, pharmaciens, dentistes se sont joints à l'appel des infirmiers et aides-soignants.
Alors, peut-être un mot sur la suite prévisible de cette protestation sociale. Donc, on voit bien qu'elle monte. En tout cas, les mécontentements sont nombreux. Et pour l'heure, les grandes centrales syndicales restent divisées, comme le prouve encore hier l'échec de cette réunion qui était censée refaire l'unité entre les syndicats, Annabelle.
Oui, de la convergence des luttes aujourd'hui, qu'en restera-t-il au-delà de la grève des fonctionnaires ? On le voit, les confédérations ont du mal à parler d'une seule voix. Aucun véritable objectif commun n'est sorti hier soir de la réunion intersyndicale. Pas tout à fait un échec, puisqu'une autre réunion est prévue, mais difficile de croire que la CGT, la CFDT et Force ouvrière feront front commun. Et pourtant, leur base les pousse à agir, et bien souvent, même en l'absence de mots d'ordre, une partie d'entre elles se retrouve tout de même côte à côte dans la rue. Bien sûr, on peut regretter le manque d'efficacité face à l'exécutif sans un front syndical commun, mais pas seulement, les syndicats en sont aucun doute le rôle également de canaliser le mécontentement de la société. Un rôle qui n'est pas franchement pour le moment à négliger quand on voit de plus en plus dans les cortèges des militants anticapitalistes, antifascistes, altermondialistes, anarchistes et autres mouvements autonomes nourris par un sentiment d'injustice sociale.
Merci Annabelle Grelier. La bataille administrative du Grand Paris est lancée. L'ensemble des présidents de départements de la petite et de la grande couronne parisienne vont se donner rendez-vous tout à l'heure pour une conférence de presse commune, c'est un fait assez rare, pour mettre en garde la population donc contre ce projet de Grand Paris qui prévoit pour l'an prochain de fusionner la ville de Paris avec sa petite couronne, donc les Hauts-de-Seine, le Val-de-Marne et la Seine-Saint-Denis. Stéphane Robert, bonjour.
Oui, bonjour Antoine.
Bon, d'abord un mot sur ce projet qui est donc dans les tuyaux, comme on dit. Comment ça se concrétiserait cette fusion?
Eh bien, vous le disiez, on ferait disparaître les actuelles frontières administratives des quatre départements. Plus de Paris, plus de Seine-Saint-Denis, fini le Val-de-Marne, fini les Hauts-de-Seine. Et on n'aurait plus qu'une seule entité, le Grand Paris, qui recouvrirait peu ou prou les frontières de l'ex-département de la Seine, un département constitué au moment de la Révolution française en 1790 et supprimé au profit des subdivisions actuelles en 1968. Comme quoi, quand on veut faire du neuf, c'est bien souvent avec du vieux. L'idée est de regrouper les centres de décisions actuels afin de développer des politiques cohérentes à plus grande échelle, de mutualiser les différentes administrations. Bref, de simplifier, de faire des économies d'échelle et de mieux répartir les richesses entre les territoires. Ça, évidemment, ça ne convient pas aux exécutifs des différentes administrations et en premier lieu à leurs chefs, les présidents de département, puisqu'on leur enlève leur pouvoir d'élu local. Et ils dénoncent tout à trac leurs inquiétudes sur la disparition des services de proximité, sur le mode de désignation des représentants du Grand Paris et parlent d'usine à gaz en évoquant cette nouvelle entité.
Alors sur le fond, qu'est-ce que ça change dans l'idée? Parce que ce projet change en fait l'administration de ces territoires.
Eh bien rien n'est complètement arrêté, mais l'idée vers laquelle on s'oriente, c'est qu'on supprimerait les départements, qu'on passerait outre l'organisation communale au profit des intercommunalités, mais des intercommunalités plus grandes encore que celles qui existaient jusqu'ici. Il y en a 12 qui ont été délimités il y a deux ans, en 2015, à travers la constitution d'établissements publics territoriaux et qui couvrent l'ensemble des territoires de la future métropole. Ces établissements publics territoriaux sont censés récupérer les compétences à la fois des communes et des intercommunalités. Bref, on a l'impression que c'est un peu le combat cher à Emmanuel Macron d'un nouveau monde contre l'ancien monde, puisque cette organisation autour de la métropole est censée faire disparaître les entités qui lui préexistaient, communes, intercommunalités, départements. Elle vient même concurrencer la région Île-de-France, dont on voit mal dès lors si cette métropole se met en place, quel serait son objet et sa finalité. Au passage, la gauche, qui détient Paris et deux départements de la petite couronne, ainsi que la droite, qui détient la région et les départements périphériques, serait potentiellement mise en difficulté.
Merci Stéphane Robert. Pour un historien, Stéphane Courtois, ça dit quelque chose? Nouveau monde,
chose,
ancien monde
sûr. Non, parce que ce fameux département de la Seine, qui a été liquidé dans les années 60, c'était quand même 80 communes. Il y avait 80 communes, et d'un seul coup, tout ça serait sous une seule autorité. Bon, on peut croire au miracle, mais personnellement, je n'y crois pas.
Merci Stéphane Courtois.
Midi 46 sur France Culture, la suite de votre journal. Antoine Mercier, avec une affaire embarrassante pour le gouvernement à l'heure où les députés discutent d'un budget souvent décrié comme favorisant les plus riches.
Oui, des révélations faites par l'hebdomadaire Marianne. La ministre de la Défense, Florence Parly, aurait touché un salaire de plus de 50 000 euros par mois sur les six premiers mois de 2017 en tant que directrice générale déléguée de la SNCF. rémunération totale qui dépasse la limite autorisée depuis 2012 pour les dirigeants d'entreprises publiques. Le salaire est limité à 450 000 euros bruts par an. Le cabinet de la ministre assure toutefois que ce plafond s'applique seulement aux personnels qui ont le statut de mandataire social. Or, Florence Parly était alors contractuelle de droit privé. Et on est en compagnie dans cette édition d'Étienne Girard, bonjour.
Bonjour.
Journaliste à Marianne, donc, et auteur de cette enquête. Alors dites-nous tout, les faits précisément concernant cette affaire qui pourrait être embarrassée le gouvernement.
Oui, Florence Parly a transmis sa déclaration d'intérêt à la haute autorité du gouvernement. Et on s'est aperçu qu'elle a gagné en 18 mois plus de 900 000 euros. Dont 675 000 euros de la SNCF, ce qui revient à peu près à 500 000 euros par an. Et sur les 6 premiers mois de 2017, l'addition se monte même à plus de 52 000 euros par mois. Donc elle tord le cou clairement là au cliché de la fonction publique qui ne paye pas.
Oui, effectivement, c'est la grève des fonctionnaires, il faut le rappeler. Bon, qu'est-ce qu'elle était ? Elle était directrice générale de la SNCF ?
Elle était directrice générale chargée de la branche voyageurs de la SNCF. Elle était directrice générale, donc comme une vingtaine de personnes à la SNCF. Mais, or, elle était payée plus du plafond.
Oui, mais pourquoi était-elle de droit privé ? Parce qu'elle se défend comme ça. Hein. Le ministère dit qu'elle était contractuelle de droit privé. Donc, elle n'était pas concernée par ce plafond.
Alors, ce que dit la loi, c'est que les mandataires sociaux d'une entreprise publique, c'est forcément le numéro 1 et parfois le numéro 2. Pour les numéros 3, 4, 5, 6, il n'y a pas de règle. Donc on a le droit, en effet, d'être contractuel de droit privé en ayant exactement les mêmes missions que les mandataires sociaux, Guillaume Pépier à la SNCF par exemple. Mais là, il n'y a pas de plafond, donc on peut être payé autant qu'on veut.
Et ça dépend de qui en fait ces salaires ? C'est directement le directeur de la SNCF ?
Alors le directeur de la SNCF, c'est quand même avalisé par le ministre de l'économie. Oui. Alors, en 2012, c'était Moscovici, ensuite ça a été Emmanuel Macron.
Et pourquoi finalement on en arrive là, selon vous ? C'est parce que les personnes demandent, que c'est un peu la course comme dans les patrons, on se croirait dans le CAC 40 finalement.
En effet, il y a
les salaires des grands patrons.
Il y a l'idée qu'on ne peut pas attirer un personnel de qualité dans les entreprises publiques si on ne les paye pas grassement. Mais ça se percute à l'engagement de François Hollande en 2012, rappelez-vous, on l'a un peu oublié, qui était de limiter les salaires dans les entreprises publiques de 1 à 20. À la SNCF, le 1, les gens qui gagnent le moins, ils gagnent le SMIC. Et 450 000 euros et plus, c'est beaucoup.
Pourtant,
plus
Madame, que 20. Madame Parly ne faisait pas partie des dirigeants d'entreprise. Elle était fonctionnaire elle-même, enfin en tout cas dans la fonction publique.
Oui, c'est un des autres aspects gênants de cette affaire-là, c'est que Florence Parly, elle est haut fonctionnaire. Mmh. Et donc, elle gagnait énormément d'argent, mais demain, si elle est éjectée de la SNCF, elle retrouvera son poste. Elle travaille au budget, à Bercy, elle est administratrice civile, donc elle retrouvera son poste tranquillement avec une rémunération.
Pour surveiller les hauts salaires éventuellement. Ça pose pas de problème légal.
Aucun.
Bon, évidemment, peut-être un problème moral, effectivement.
Enfin, ça pose peut-être un problème moral et de déconnexion à l'égard du commun des mortels. Ça s'inscrit dans un contexte un peu particulier politiquement, où Emmanuel Macron est présenté un peu comme le président des riches. Donc ça ne fait pas forcément les affaires du gouvernement.
Et est-ce qu'il y aurait d'autres affaires comme ça qui pourraient dire que ça fait une sorte de système ou qu'il y a une logique dans cette nouvelle équipe ?
Ce qui est intéressant, c'est que la ministre Florence Parly a oublié, je dis oublié, il y a des guillemets, de nous présenter ses revenus sur des années 2012 à 2014. Elle travaillait à la Air France, puis à la SNCF. Elle s'est fait tirer les oreilles, donc elle a transmis une déclaration modificative qui n'est pas encore publiée. Peut-être qu'on découvrira de nouveaux émoluments d'ampleur de ce type-là.
Merci beaucoup, Étienne Girard, d'avoir accepté notre invitation. Je renvoie donc à votre enquête qui est parue dans Marianne cette semaine. On passe à cette nouvelle alerte sur la sécurité des centrales nucléaires en France. Des experts mandatés par Greenpeace qui mettent en garde contre des failles sécuritaires en cas d'attaque ou d'actes de malveillance. Et ces experts se sont particulièrement intéressés à la capacité de résistance des fameuses piscines où l'on entrepose les combustibles nucléaires usagés. Véronique Roberotte.
Oui, ces piscines de refroidissement, il y en a 62 en France, dont 4 à La Hague. Ces piscines, selon le rapport de Greenpeace, le talon d'Achille du parc nucléaire français. Les bâtiments qui abritent ces piscines, eh bien, ni plus ni moins que des hangars agricoles. C'est ce qu'estiment donc les experts français, allemands, anglais, américains qui ont travaillé sur ce dossier. Or, pas de poutres ou bardages métalliques sur les toits, pas de murs murs épais capables de résister à un acte de malveillance. Pourquoi cette faiblesse constatée sur l'ensemble du parc français? Eh bien, au moment de leur construction, la menace aérienne, la menace terroriste, en général, n'était pas prise en compte. C'était bien avant la prise de conscience, à compter du 11 septembre 2001, de la vulnérabilité de nos centrales et de nos piscines. Seul le risque d'emballement à l'époque du réacteur nucléaire était pris en compte. Alors, tout en restant discret auprès du grand public sur des scénarios trop détaillés, les experts disent que ces piscines pourraient aussi bien être attaquées par un avion de ligne, des armes anti-chars, un hélicoptère ou des drones chargés d'explosifs qui ne seraient détectés qu'au dernier moment. Le scénario d'un sabotage en interne fait partie aussi des menaces réelles. Si une piscine de refroidissement de combustible nucléaire sous l'effet d'une attaque brutale venait à se vider soudainement, bien il se produirait alors un incendie susceptible sous l'effet d'une chaleur immédiatement extrême de s'étendre à toute la centrale, sans possibilité alors rapide d'intervention. Les conséquences sur la population seraient bien plus élevées que dans le cas d'un accident majeur. Greenpeace estime alors que les moyens de détection de la menace, d'interception mise en place par EDF après le 11 septembre ne sont aujourd'hui pas suffisants. L'ONG estime qu'EDF n'a pas procédé au renforcement aussi nécessaire des bâtiments des piscines nucléaires. Une bunkérisation évaluée à 60 milliards d'euros pour l'ensemble du parc français, 1 milliard par piscine, un coût qui prend bien sûr en compte la mise à l'arrêt de la centrale pendant les travaux et le manque à gagner.
Véronique Rebérotte, merci.
Quand les prisons peuvent devenir le terreau du terrorisme, un Camerounais de 28 ans et un Français de 22 ans ont été mis en examen vendredi. Ils sont soupçonnés d'avoir envisagé un projet d'attentat depuis leur cellule de la prison de Fresnes.
Ah oui, cette prison de Fresnes qui est pourtant l'une des trois en France à être dotée d'un quartier d'évaluation de la radicalisation destiné à mesurer la dangerosité, le degré de radicalisation d'un détenu avant son affectation dans un lieu de détention. Et selon la ministre de la Justice, eh bien cette découverte, donc projet d'attentat, révèle l'urgence du problème de la radicalisation en prison. Antoine Marette, bonjour.
Bonjour.
Effectivement, il y a plusieurs éléments de cette question globale qui apparaissent dans cette affaire particulière.
Effectivement, les deux hommes n'étaient pas emprisonnés pour des affaires liées au terrorisme ou à la radicalisation. Ils étaient incarcérés pour des faits de droit commun. Leur peine touchait d'ailleurs à leur fin. L'un devait sortir de prison aujourd'hui, l'autre la semaine prochaine. Et les deux se sont radicalisés derrière les barreaux. Le meneur est un Camerounais de 28 ans. Il était suivi depuis la fin de l'année 2016 par la DGSI. Les investigations ont révélé qu'il était en contact avec une personne présente dans la zone irako-syrienne. Et lors de sa garde à vue, il a confirmé aux enquêteurs qu'il comptait commettre un attentat. Cet homme a eu des échanges sur ce sujet avec un autre prisonnier, un Français de 22 ans. Les deux hommes ont évoqué ensemble un passage à l'acte à l'extérieur de la maison d'arrêt, mais il n'était pas encore question de cible précise. Selon une source proche du dossier, parmi les hypothèses envisagées, des surveillants pénitentiaires, une prise d'otage, des policiers ou encore un mitraillage. Les deux hommes mis en examen vendredi pour association de malfaiteurs terroristes criminels ont été placés en détention provisoire.
Antoine Marette, l'administration Trump devrait abroger une mesure phare de l'ex-président Barack Obama sur le climat. Le président met en œuvre ainsi sa promesse de campagne qui est destinée à relancer l'industrie minière américaine. Donald Trump avait déjà annoncé, c'était début juin, sa décision de quitter l'accord de Paris sur le climat signé en décembre 2015. Par 195 pays, dont donc les États-Unis, pour limiter la hausse du réchauffement climatique. L'agence de presse russe rapporte ce matin que les autorités nord-coréennes disposeraient d'un type de missile d'une portée de 3000 km susceptible d'atteindre le territoire américain. Une fois qu'ils auront été modifiés, l'agence cite un membre de la commission des affaires étrangères de la Douma qui s'est rendu donc à Pyongyang du 2 au 6 octobre avec d'autres élus russes. Et selon lui, donc, l'administration nord-coréenne veut faire passer la portée de ces missiles balistiques à 9000 km. Stéphane Courtois, la Corée du Nord, finalement, c'est encore un vestige de tout ce monde dont vous vous occupez.
La Corée du Nord, c'est encore beaucoup plus inquiétant que la Catalogne, il faut bien le dire. Non, mais c'est une histoire véritablement folle. Ces gens, ces dirigeants de père en fils, en petit-fils et maintenant en petite-fille, puisque...
Alors justement, est-ce que c'est plus un régime autoritaire, plus familial, ou est-ce que c'est quand même un régime communiste à l'ancienne ?
Ça reste un régime communiste tout à fait à l'ancienne, avec un pouvoir absolu qui contrôle absolument tout, évidemment, et qui maintenant se met en tête d'avoir sa bombinette. Mais enfin, on peut faire sauter la planète avec ça.
On vous retrouve dans quelques secondes. Le temps de vous donner la météo pour aujourd'hui. Un temps gris et nuageux sur une grande moitié nord. Ensoleillé donc partout ailleurs sur la moitié sud. Des températures de 16 à 26 degrés. Édition réalisée avec François-Charles Domergue. Le prochain journal est à 18h avec Aurélie Kéfer.